présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. A-t-il vu la même chose que toi et a sublimé comme toi? C'est un artiste. Très belle BD. Il lui dit, la fille ressemble à celle que j'ai rencontrée. Elle lui dit, tu as rencontré une fille belle? Il lui dit, sympathique. Elle lui dit, pense plus à toutes ces choses. Nous nous renseignerons plus tard. Tu dors ici ce soir? Tu veux ? Elle lui dit, oui, j'ai besoin de détendre. Elle lui fait, tu es tout de même heureux de te retrouver, ta Judith, ta vieille amie. Elle lui dit, oui, j'en suis très heureux de te retrouver. Tu es, et tu sais bien que tu es jeune et belle. Le lendemain, Judith raconte à Le Mans-Noir le voyage à Lyon de Cliff. Il lui dit, ce n'est pas grave qu'il ait vu la ville, parce que s'il est né, il faut qu'il la voie. S'il ne l'est pas, il faut qu'on l'élimine. Alors, disparaissant, il va oublier ce qu'il a vu. Mais surveillez-le bien. Moi je pense qu'il voulait l'élu. Mais en même temps, je prépare sa fin. S'il ne l'est pas, je m'occupe des deux possibilités, deux fins possibles. Bien, monsieur. Voilà. Alors, faites très attention à lui, tant qu'on n'a pas la réponse. Pendant ce temps, Didier est pris dans sa vie de soldat. Comme il a beaucoup parlé de lui, il est devenu le soldat à abattre, celui qui est recherché pour se mesurer avec lui parce que c'est un héros. Donc, durant les batailles, il est très recherché par l'ennemi et il est souvent attaqué de toutes parts. Il n'a pas une minute à lui. Il est obligé, c'est de se défendre de tous les côtés. Et en plus, on lui envoie les meilleurs soldats. Mais il lui reste toujours le meilleur, grâce à sa souplesse, sa rapidité de décision. Une fois, il voit une dizaine de soldats ennemis foncer sur lui, seul. Le prend pour le faire prisonnier. Vont sur lui pour le prendre, pour le faire prisonnier. Ils sont bien armés de poignards, flèches et fusils. Mais ils le veulent vivant pour avoir une bonne rançon et montrer au monde qu'ils ont pris le meilleur soldat. Ils veulent même... l'exhiber dans une cage et le montrer dans les villages comme une bête. Il s'approche de Didier menaçant. Didier recule et en reculant cogne sur une Jeep. D'un bond arrière, il saute sur la Jeep et la met en marche et fonce sur ses agresseurs. Les fait tomber et certains les écrasent. Avec sa jupe, en passant entre deux arbres, un gros filet s'abat sur lui. Il continue à conduire malgré ça. Il a des difficultés à conduire la voiture, puis arrête de conduire. D'un coup, de ses deux mains, il se délivre du filet. Et le jette sur un groupe d'ennemis qui se trouvait là, ce qui le fait tomber à la renverse. Et lui en profite pour filer. Supérieurs voient comment se bat Didier et l'on décide de le mettre dans une compagnie d'élite. Cette compagnie devra attaquer les villages rebelles. Didier accepte. Il embarque sur un petit bateau du fleuve avec une vingtaine de soldats d'élite, bien équipés. Il y a des mitrailleuses, un petit canon, des lance-flammes, etc. longe le fleuve. Et lorsqu'il voit un village, il débarque pour finir le travail et mettre feu au village. Le village rebelle sont bien équipés en armes. C'est des villages africains avec des maisons en terre et paille, mais bien armés et avec des armes modernes.
Il me doit un combat.
Il veut l'être invincible.
Ma miséricorde.
Lorsqu'il voit un bateau, il attaque
mon libérateur.
Canon, grenade, bazooka.
Mon bouclier.
Ultra moderne.
Je donne ma foi.
La bataille est rude pour les éliminer. Une fois que l'on a débarqué, il faut se battre corps à corps, pendant des heures.
Béni soit le Seigneur, ma force qui conduit mes mains à la guerre, et mes doigts en combat.
Les villages sont près du fleuve. Ne presque pas d'enfants ni de femmes. Des hommes. Par sécurité, les femmes et les enfants ont été envoyés plus loin, dans la savane. Le village, en réalité, est un fort. Lorsque les soldats débarquent, embarquent, on les attend. À coups de mitraillette, de lance-flammes. Les soldats aussi se battent de lance-flammes. Et se mitraillent. Ils mitraillent aussi les guerriers. Ils débarquent lorsqu'ils ont éliminé les grosses batteries qui défendait le village, canons, etc. Et dès qu'ils débarquent, la bataille se fait au corps à corps. Didier se bat comme un lion et aime ça. C'est aussi pour se défendre, pour défendre sa peau et pour tuer l'autre. Mais en même temps, c'est comme un jeu d'échecs. Ça devient une passion de se battre. Il en oublie de défendre sa peau. Ou alors, il défend sa peau comme dans un jeu. Il cherche à comprendre ce que veut faire l'autre que dans un jeu d'échecs. Pour le devancer. Et en le devançant, l'attaquer et le tuer. Une fois que la bataille est finie, c'est-à-dire qu'ils aient tué tous les rebelles, on met le feu au village. Mais avant de mettre le feu ou lance-flamme, on regarde de quoi est construit le village, quelles armes ils ont. Et Didier et ses camarades voient que les armes qu'ont les rebelles sont les mêmes que les leurs et qu'ont la même marque de fabrication, Franc-Blanc. Didier ne comprend pas.
Et que Big Sec Cliff travaille à Fremblant, il lui écrit pour lui demander ce que ça veut dire. Il lui parle de sa découverte. Comment se fait-il que nos ennemis ont les mêmes armes de fabrication du nom de Fremblant comme nous? Cliff est surpris. Le soir, lorsqu'il voit Judith au salon, il lui en parle. Elle lui dit:
les affaires sont les affaires. Et puis, nous n'aimons pas particulièrement les Américains et nous les aidons aussi. Pourquoi? Parce que nous défendons les Occidentaux. En vendant les armes aux Africains, ça empêche qu'ils aillent en acheter des plus performantes que les nôtres. Et celles que nous leur vendons sont moins performantes que les nôtres. Donc, ils peuvent moins bien se défendre. Si nous ne faisions pas ça, ils achèteraient des armes que nous ne pourrions pas contrôler, et ce serait plus difficile pour nous. Là, nous savons les armes qu'ils ont et quelles sont leurs puissances, parce que c'est nous qui leur avons fabriqué et vendu. En fait, sans le savoir, ils nous payent pour que nous les mitraillons, car avec l'argent qu'ils nous donnent pour acheter nos armes, il sert à fabriquer des armes pour nous et pour les détruire. Nous gagnons de l'argent sur nos victimes. Le monde des affaires, c'est cela. Après la guerre, une longue guerre, pour qu'on puisse gagner de l'argent et détruire le plus de population, nous ferons de l'Afrique un continent touristique. Nous le reverdirons grâce à la biotech. Et en plus du tourisme, l'Afrique deviendra la ferme mondiale du monde. Le tout sous notre direction et propriété. Le plan pour les nouvelles villes, hôtels, transports, tout est prêt. Même les fermes. On sait déjà combien ça va nous coûter. Et comment nous allons le faire. Le continent sera et vivra grâce à Fremblant. Sera Fremblant, continent privé. Les États à l'ONU ont donné leur accord que l'on fasse un continent touristique et fermier. Et l'on nous remerciera d'avoir fait tout ça, car l'on dira qu'on a pacifié le continent. En arrêtant les guerres. Bien entendu, pour arriver à ça, il faut éliminer le plus d'Africains. C'est pour cela que la guerre doit durer le plus longtemps possible. Les épidémies aussi, genre sida. Lui dit effrayé et dégoûté, c'est immoral, c'est horrible de tuer des millions de gens. Elle lui dit, non, c'est l'évolution, le monde des affaires, la mondialisation. Nous sommes les plus forts. Il se lève dégoûté et fait le geste de s'en aller. Elle lui dit, effrayé, qu'il s'en aille. Mais c'est pour le bien de tous. Mais les forces du mal sont contre Didier. Le diable, méfie-toi de Terne, l'oncle de Brigitte, est très dangereux. Il lui dit, pas plus que vous. Où est le bien? Où est le mal? Le bien peut faire le mal plus que le mal, et le mal peut apporter le bien? Qui manipule qui? Et pourquoi ça? Je ne sais plus. Judith lui dit, tu dois te protéger, et tu ne peux le faire qu'en étant avec moi, près de nous, malgré ce que je t'ai dit. Nous sommes dans la bonne direction, le bon sens et le bien. Cliff lui demande, le sens va du côté du mal ou du bien? Elle lui dit, le mal peut être nécessaire pour le bien. Et le bien, il n'y a pas de bien sans le mal, Didier lui dit. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des millions d'Africains qui doivent mourir pour le bien de qui? Pourquoi? Elle ne dit rien. Il lui dit, tu dis que le mal peut être nécessaire pour le bien. Il n'y a pas de bien sans mal. Alors le diable, elle lui dit, c'est pour qu'il y ait une lutte entre les deux extrêmes, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Et la lutte démontre la puissance de l'un. Et celui qui a gagné après une lutte sait qu'il a raison et pourquoi. Sa lutte peut avoir quelque chose que l'on tient. On ne se rend pas compte de sa valeur en luttant, qu'en luttant avec une chose, on se rend compte de sa valeur. Et plus la lutte est grande, plus sa valeur est précise. L'or est un métal précieux parce qu'il était rare et dur à avoir. Plus il faut lutter pour le bien, même avec l'arme du mal, plus il est précieux. Et puis lutter contre le mal, pour lutter contre le mal, il faut lutter avec ses armes. Voilà. Le mal, le diable. Le diable existe pour montrer que le bien existe aussi et qu'il est plus précieux que le mal. Pas de mal sans le bien, pas de bien sans le mal. Cliff ne sait plus rien. Cette discussion l'a épuisé. Il quitte Judith et il ne sait pas s'il ne va pas laisser Judith. Il réfléchit dans son lit et se dit, mais qui sait, cette ambiguïté, elle a peut-être tué Brigitte. Alors il boude, ne fait plus rien, ne travaille plus. La Tremblant est furieuse. Maurice Tremblant dit à Judith dans son bureau, cette bouderie, ce n'est pas bon pour nous. Pour nous protéger, notre héros qui boude, ce n'est pas bien. Essayez d'arranger les choses. Bien, monsieur le président. Alors, elle va voir Cliff, sonne à l'interphone. Oui, c'est moi Judith. Tu peux me recevoir, lui dit. Non, je veux rester seule. Et elle demande. Tu n'as pas besoin de parler? De te faire consoler? Non, j'ai besoin de réfléchir seule. Laisse-moi. Bon. Très inquiète que son prétendant élu boude. Est en colère contre le groupe. Ça ne va pas du tout. Puisqu'il ne veut pas la recevoir, alors elle écrit à sa mère, lui demandant de raisonner son fils qui doit comprendre que les affaires sont les affaires.
qui vit dans un monde d'adultes. Et Lustique en gros la dispute. La remercie d'avance de ce qu'elle va faire. La mère Vénusine qui reçoit la lettre voit que son fils est malheureux. Alors elle décide d'aller le voir pour le consoler, lui parler. Elle prend le train. Arrive à Paris sans encombre. Et va sonner à l'interphone de son fils.
Oui, c'est moi, maman.
Maman?
Oui, tu peux me recevoir?
Oui, bien sûr, maman. Entre.
Entre dans l'allée. Va à l'ascenseur. Monte jusqu'à l'étage. Et va sonner à la porte de son fils. La porte est ouverte. Son fils est en t-shirt blanc, caleçon marine, pieds nus. Malgré sa mine défaite, il est délicieux. Et comme il a maigri un peu, juste ce qu'il faut, il fait encore plus jeune et enfant. Il s'embrasse. Et ferme la porte.
Mande, comment vas-tu mon petit?
Il lui dit, ne me pas fort, tu vas de travers.
Je ne sais plus où j'en suis. Les personnes que j'aime me semblent des monstres. Je ne vois plus.
Elle lui dit, pas moi j'espère.
Oh non, surtout pas toi maman.
Mais je ne sais plus ce que je fais.
Si c'est bien ou mal.
Tout ça me dépasse et je suis malheureux.
Tout ce qui m'arrive, je ne sais plus.
Pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout ça? Et je dois me poser des tas de questions.
Elle lui dit.
Tout le monde se pose des questions. Nous subissons plus que nous organisons notre vie. Et puis, pour nous, tu sais que tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver est déjà arrivé et que l'on n'y peut rien. Ce sont les dieux qui le veulent. Ça ne sert à rien de bouder. De toute façon, les choses seront comme ça jusqu'à la nuit des temps. Ton destin est tracé. Ça ne sert à rien de te battre contre lui. Tu sais ce qui doit arriver, et quoi que tu fasses, ça arrivera. Alors, laisse-toi guider par la destinée, comme moi je me laisse guider vers la terrible nouvelle que je sais depuis longtemps que je vais recevoir. Et c'est une vie de chagrin. Je le sais. Ne lutte pas contre ça. Parce que l'on ne peut rien.
me prépare seulement à la tragique chose. Et toi, je te demande si d'en faire autant. La meilleure façon de t'y préparer est de continuer à aimer ceux qui t'aiment et à aimer la vie parce que c'est précieux, très précieux. Que c'est précieux. Et ne gâche pas ta vie en te battant avec des choses qui ne peuvent être battues parce qu'elles sont dans la destinée du monde. Ces choses mourront à la fin des temps. Mais pas avant longtemps. Et tant qu'elles seront là, la vie sera là. Qu'il y a de la vie, des choses contradictoires, c'est pour le mouvement du monde extérieur. Le bien, le mal seront toujours liés ensemble. Tu n'y peux rien. Cliff lui dit. Cliff lui dit, si tu me dis que je dois me crocher à tout ça, ça veut dire que je ne pourrai jamais être heureux, elle lui dit. Non, et les autres non plus. Pourquoi? Parce que pour montrer à l'homme qui n'est rien sur cette terre, et qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Et puis, tu sais, ce que les dieux ont décidé pour toi et leur lâche, ça ne sert à rien. C'est ton destin, comme moi. Le mien est lié au tien. Elle l'embrasse et réfléchit. Durant son séjour avec son fils, elle range l'appartement, fait des bons repas, lui demande de l'accompagner au concert, opéra, théâtre, soirée. Elle fait ça pour le distraire. Mais lui dit, je ne vais jamais dans une grande ville. Je veux me distraire un peu. Alors, fais-le pour moi. Oui, bien sûr, maman. Et il l'emmène un peu partout. Ça lui change les idées. Le dernier soir qu'ils passent ensemble, il lui dit, tu as raison, j'ai décidé de vivre et de ne plus chercher à changer le monde. Je vais continuer à vivre pour ceux que j'aime, surtout pour toi. Il l'embrasse et lui dit, merci. Et pense aussi à Didier. Et lui dit, oui, aussi à lui. Puis, sa mère est partie. Avant de partir, elle téléphone à Judith et lui dit que son fils va mieux, mais qu'il faut y aller doucement avec lui, qu'il est très jeune et fragile, qu'il a besoin d'affection. Judith est satisfaite. Cliff prévient Judith qu'il reprend son travail et veut la voir. La vie reprend pour lui. Y
Il reprend ses visites dans les usines pour contrôler leur production. Va revoir Judith. Écrit à Didier et à sa mère.
Continue à voir Judith.
Malgré ses idées, parce qu'il se dit que c'est la destinée qu'il a voulu, qu'elle pense comme ça et qu'elle n'y peut rien. Si la destinée veut qu'elle soit autrement, elle le sera. Mais il sent lui-même qu'elle est douce et bonne, comme la douceur de sa peau, de ses baisers. Lorsqu'il se plaque contre elle, il sent sa bonté, sa chaleur. Attention, Cliff, malgré ses amours, ses aventures, est resté pur. Il n'est pas allé jusqu'où il devrait aller. Parce qu'en lui-même, il est pur. Et puis, ce n'est pas son rôle d'aller trop loin. Son rôle est de l'être. À une soirée, où il est allé avec Judith, une jeune fille blonde, mince, l'air froid, habillée d'une robe moulante en paillettes grises, lui dit
« Je vous ai entendu discutailler de la guerre. Mais vous restez en France, tandis que Didier et les autres se battent pour de vrai en Afrique, à votre place. » Cliff est rouge de honte et quitte la jeune fille.
Quelques jours plus tard, Didier lui crie et lui dit que la guerre est une santé, que c'est d'abord débattre, redescendre, défendre sa peau comme un tigre, et que les ennemis ont peur de lui. Cliff se sent honteux. Oui, il se sent honteux. Il en parle. Elle lui dit,
vous, c'est que tu restes ici, parce que l'on a besoin de toi et que tu es plus efficace ici. Tu dois écrire à Didier pour l'exalter à se battre. Ça nous fera une bonne pub.
Cliff lui dit,
qui est mon ami? Fais-le pour lui aussi, parce qu'il deviendra un héros et plus il sera protégé.
Et Cliff exalte Didier par des lettres en lui disant de continuer à se battre. C'est ce que fait ce pauvre Didier qui se bat comme un tigre. D'ailleurs, il ne peut pas faire autrement pour sauver sa peau. La télévision CBS, qui a pris les espoirs de Didier, décide de l'interviewer sur le champ de bataille. On le montre en train de se battre, mais on interview Didier, raconter la dure vie de soldats en Afrique, dureté climatique, les maladies, les bêtes, la guerre très dure, parce que les Africains savent se battre, ils sont très forts. Le reportage est vu dans le monde entier. Et c'est un Français qui se bat comme un lion pour sauver le monde occidental. Et pour que ça serve des armes et qui se sert des armes tremblantes. Oui, il sauve le monde occidental avec des armes tremblantes. Il y a au milieu du reportage des pubs. Et ces pubs sont des pubs de produits tremblants pour montrer les armes de pointe, produits pour l'alimentation, l'eau, voyage organisé, hôtel de luxe, soins, aliments pour genre, alimentation pour chiens et chirurgie esthétique. Après-midi, il est de congé, décide d'aller voir son ami Alexis. Il retrouve le quartier qui n'a pas changé, toujours aussi sympathique et populaire, genre années 50, avec ses magasins, son square, son école municipale, ses petites entreprises dans les arrières-cours. Les enfants qui jouent dehors, le café, les épiciers. Où il y a encore des affiches genre Marnia et Banania, chocolat pupier. Ça sent bon la vie de quartier, chose qui a disparu depuis longtemps. Il y a même un peu plus loin, dans une autre rue, un petit cinéma qui n'ouvre que le vendredi, samedi et dimanche. Donc, Cliff retrouve tout ça et est heureux de retrouver tout ça. Parce que ça sent la vie simple, mais honnête. Parce que malgré le malheur, les guerres, les émeutes, on sent un bonheur heureux et simple. Entre dans l'allée des parents d'Alexis. Elle n'a pas changé, elle non plus. Elle a toujours la même odeur de vieux, de poubelle et de poussière humide. Monte à l'étage. Hésite, parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Il se peut qu'il ait oublié. Sonne à la porte. La porte s'ouvre. Apparaît Alexis, toujours le même. Cliff ? Oui, c'est moi. Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Il le fait entrer. Ferme la porte. Alexis lui dit : ça fait longtemps ? Tu n'es pas venu me voir. Que deviens-tu ? Je lui dis. J'ai beaucoup de choses et je dois avouer des choses pas très propres.
j'ai eu beaucoup de travail et c'est pour ça que je ne suis pas venu. Pardonne-moi, Laetitia lui dit. Mais tu es pardonné, viens. Il le mène au salon. La porte de la cuisine s'est ouverte. Et apparaît le père d'Alexis. Toujours le même, un maillot de corps tricoté blanc. Il a l'air fatigué. Alexis lui dit, c'est Cliff. Le père lui dit, je le sais, je le reconnais. Bonjour Cliff, heureux de te revoir. Il lui serre la main et lui demande, t'es venu pour la pêche? Cliff lui dit, si vous voulez, j'ai eu tellement de choses à faire que je n'ai pas pu venir plus tôt. J'ai eu peur, c'est que vous m'ayez oublié. Le père lui dit, on n'oublie jamais les amis, tu sais. Tu seras toujours le bienvenu chez nous. Alexis lui dit, n'as pas de souci à te faire. Tu viens quand tu veux. On te recevra toujours. Cliff se sent aimé. Il leur dit, merci. Allez, allons au salon. On discutera mieux. Cliff leur parle de ce qu'il a fait et de son aventure à Lyon. Ça les a étonnés. Et il lui dit, c'est comme une aventure de bande dessinée. Il lui dit, il y a même eu une bande dessinée qui présente la même chose. Je la montrerai. Et il lui parle de leurs ennuis. Ma mère est en prison et mon père au chômage. La vie est très dure. Et sans la pensée, on serait à la rue. Elle lui dit, oui, et c'est très dur. Moi qui ai toujours travaillé, et depuis l'âge de 14 ans, se retrouver sans travail, il n'y a rien. Ou on me dit que je suis trop vieux. J'ai peur qu'il me transforme en porté pour chien. C'est le sort des chômeurs. Je me dis souvent que je suis un chômeur. Et j'ai peur que les hommes en noir viennent me chercher pour me mettre en bouillie. Je lui dis, je vous comprends, il ferait tout pour vous empêcher ça. Et il lui dit, si vous pouvez y trouver du travail, qu'il lui dit, je tâcherai de voir et en parler. Et ils ont passé la journée ensemble. Puis ils les ont amenés au restaurant avec Mathieu, parce qu'ils étaient allés chercher Mathieu. Et il leur a payé le cinéma. Ainsi qu'il est reparti, en leur promettant de revenir bientôt. Lendemain soir, il parle à Julie, père d'Alex. Pas un petit travail pour lui, et lui dit, je connais son cas, pour le moment je ne peux rien faire.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Guerre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.